France Inter. Le 18-20. Claire Servagen.
Au téléphone sonne ce soir, comment favoriser l'emploi des personnes handicapées? Comment améliorer leur formation pour qu'elles décrochent un travail ou qu'elles restent dans l'entreprise si le handicap apparaît à l'occasion d'une maladie ou d'un accident? Question essentielle quand on sait qu'être handicapé, cela coûte cher et que pour l'instant, le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois supérieur à celui des valides. Il est de 18% en tout. Alors ce soir, on va tenter de faire le point, de voir ce qu'il en est de l'obligation des entreprises dans ce domaine, des difficultés auxquelles elles peuvent être confrontés, des réticences et des préjugés qui peuvent exister. On verra aussi à quel point cela peut être compliqué pour les travailleurs handicapés de trouver un emploi et de se former également. Avec nous pour aborder tous ces sujets à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, deux invités que vous allez pouvoir interpeller ce soir. Véronique Bustrel, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice de l'innovation, de la formation et de la stratégie à l'AGFIP, l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Anne Festa, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Directrice associative et du développement de l'ADAPT, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, qui, je crois, organise cette semaine de sensibilisation.
Absolument.
Alors n'hésitez pas surtout à appeler le standard de France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite, un premier appel qui nous vient de Lille. C'est Louis qui est en ligne. Bonsoir Louis, bienvenue à vous.
Bonsoir tout le monde. Je vous appelle parce que je suis moi-même porteur d'un handicap physique qui m'oblige à me déplacer en fauteuil roulant. Donc pour bien préciser ma problématique, j'ai fait des études de journalisme de base, un master. Et donc là, je suis sorti des études en 2017. Donc après, j'ai eu la chance de pouvoir faire un service civique en attendant de pouvoir trouver un emploi plus pérenne. Mais donc moi, j'ai un problème de mobilité en sachant que je ne peux pas avoir de voiture ni passer le permis. Donc je voulais surtout insister sur l'aspect plus, plus global en fait de la problématique de recherche d'emploi. C'est aussi un des freins sociétaux et pas seulement d'entreprises et d'employeurs, parce que enfin si je prends mon cas par exemple, quand je recherche des offres en journalisme, 80% des offres sont à Paris ou en région parisienne. Le problème pour les gens qui sont comme moi sans voiture, sans permis, le métro n'est pas accessible à Paris. Il n'y a que 9 stations de métro qui sont accessibles sur tout le réseau, donc ça fait pas lourd. Donc voilà, moi je voulais surtout insister sur les freins sociétaux pour en premier lieu, pardon, et aussi après, plus spécifiquement pour la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Ce que je trouve dommage, ici dans le Nord en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup d'opérations de sensibilisation, et ça c'est bien, je veux insister là-dessus, mais il n'y a pas beaucoup d'opérations qui visent à mettre concrètement des personnes handicapées vis-à-vis des en face des employeurs ou en visite d'entreprise par exemple,
voilà.
En relation. Il n'y a qu'un événement sur toute la semaine. Je parle du Nord, hein, moi, parce que c'est là que j'ai regardé. Mais après, voilà ce que je voulais dire. Et je voulais terminer en remerciant France Inter en particulier et Radio France en général pour la qualité des émissions.
Ah ben merci Louis, hein, on prend les remerciements, c'est sympa. En tout cas pour ce qui est du secteur de l'information, hein, faut quand même bien préciser que c'est un secteur qui se distingue, il n'emploie que 2,2% de personnes handicapées. Effectivement, c'est pas un secteur de pointe dans ce domaine-là. Qui veut répondre à Louis? Véronique Bustrel peut-être pour commencer?
Oui, je veux bien. Bien évidemment, à la fois parce que effectivement, ce que Louis illustre finalement est assez commun de la réalité vécue par les personnes, à savoir que la situation de handicap n'est pas finalement une situation dans le travail et dans l'emploi uniquement, elle n'est pas restreinte à cet aspect-là, et que bien évidemment tous les aspects de la vie quotidienne de la personne et la chaîne d'accessibilité qui permet finalement de sortir du domicile, de vivre à domicile, de sortir du domicile, comme vous le disiez Louis, de se déplacer, d'aller dans sa vie quotidienne, de se mouvoir dans sa vie quotidienne, mais aussi de se rendre finalement sur son lieu de travail et de se mouvoir aussi dans son espace de travail, bah, c'est en fait des conditions très importantes. Alors c'est vrai qu'on met en place des actions de compensation du handicap. Alors c'est vrai que parfois, ces actions de compensation, elles ne peuvent pas être résolues uniquement par l'employeur, pas uniquement par des fonds tels que la GFIP qui viennent appuyer, soutenir la compensation du handicap en emploi, mais aussi, et bien évidemment, par la société en général. Et c'est comment se mobilisent les acteurs publics, les autorités des transports et l'ensemble des acteurs.
Anne Festa, parce que Louis, il est formé. Le problème, après, c'est comment aller au boulot.
Absolument. Non seulement Louis est formé, il fait plutôt partie des gens qui, en plus, ont, je veux dire, des études qui peuvent le mener sur des emplois où il pourrait y avoir des débouchés. Cependant, pour rebondir sur ce que disait aussi Véronique, ce n'est pas effectivement essentiellement lié à un problème de recherche d'emploi. Et c'est pour ça que le monde associatif a un rôle extrêmement important à jouer, y compris pour travailler dans des écosystèmes de proximité, pour peut-être aider Louis en proximité. Alors je ne dis pas que demain on va trouver effectivement un travail, mais en tout cas essayer avec les services spécifiques qu'il peut y avoir à l'ADAPT, mais dans d'autres associations, de lui proposer de rencontrer des employeurs qui pourraient l'aider localement, ne serait-ce que pour commencer à solutionner, peut-être aussi l'aider à réfléchir sur un système de télétravail. Tout ça, c'est des choses que les associations peuvent aider à réfléchir avec des dispositifs pluridisciplinaires, avec des personnes. Et pour rebondir aussi sur ce qu'il dit, en particulier sur ce qu'il appelle les job coaching, comment à un moment donné l'ADAPT permet pendant cette semaine de faire rencontrer des entreprises susceptibles d'avoir des postes à proposer et des candidats. C'est vrai que malheureusement, il faut encore qu'on fasse un effort parce qu'il n'y en a pas forcément partout assez.
Et notamment à Lille. On va aller à Bordeaux cette fois-ci. C'est Cécile qui est en ligne. Bonsoir Cécile.
Oui, bonsoir. Oui, moi je souhaitais témoigner en tant que travailleur social. Je suis éducatrice spécialisée auprès de jeunes en situation de handicap moteur, donc ça va aussi confirmer ce que vient de dire Louis. Nous, on a énormément de difficultés à trouver des emplois pour ces jeunes, de par le manque d'accessibilité, mais aussi le handicap moteur entraîne aussi d'autres limites en termes de communication. Et parfois, des maladies nécessitent une assistance respiratoire qui peuvent aussi, refroidir les employeurs, alors que ce sont des personnes qui peuvent avoir des diplômes comme nous tous et qui peuvent tout à fait assumer un emploi, mais avec évidemment quelques aménagements, peut-être horaires ou autres. Mais du coup, on se retrouve avec ces personnes au domicile sans emploi.
Merci beaucoup Cécile de nous avoir appelé. Qui souhaite répondre à Anne Festa, peut-être de l'ADAPT sur cette question?
C'est clairement ce qui vient d'être dit par cette auditrice, ce à quoi on est confronté. C'est-à-dire, ça peut être pas forcément une résistance, mais une inquiétude effectivement des entreprises de pouvoir accueillir des personnes avec des handicaps qui leur semblent comme ça lourds. D'où vraiment l'importance absolue de pouvoir être bien dirigée et d'amener les personnes en situation de handicap au cœur de dispositifs qui vont pouvoir évidemment les accompagner elles, mais j'ai envie de dire accompagner aussi les entreprises sur cette sensibilisation, sur cette façon d'accueillir de la meilleure façon possible sans crainte, en regardant non pas ce qui n'est pas possible de faire par cette personne, mais bien ses compétences et ses capacités. Et ça, c'est un travail de très longue haleine, d'acculturation à la différence et au handicap. Et c'est vraiment un travail de tous les jours et il faut aller chercher et solliciter pour ne pas lâcher les entreprises et pas non plus les laisser seules par rapport à cette inquiétude qui peut être quelque part légitime quand on connaît mal le handicap.
Véronique Bustrel, comment fait-on pour faire tomber les préjugés et rassurer les employeurs?
Oui, je pense qu'effectivement, il est extrêmement important de pouvoir dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il est important d'aller au contact des employeurs, de les accompagner parce que la situation peut leur apparaître comme complexe, qu'il peut y avoir des situations comme celle-ci qui sont particulièrement paroxystiques. C'est quand même des situations qui ne sont pas courantes non plus en termes d'accompagnement des parcours des personnes. Néanmoins, je crois qu'on a vraiment un gros travail. Alors c'est vrai que nous à la GFIP, hein, ça fait partie de nos missions, hein, de travailler au quotidien en direction des entreprises. C'est une partie de notre action au plus près du terrain, avec des acteurs mobilisés, avec un réseau d'entreprises mobilisées. Je pense qu'on a aujourd'hui plus de 2200 activateurs de progrès, donc des entreprises engagées. On met en place des moments de rencontres, de rendez-vous pour sensibiliser, pour informer, pour rassurer, pour donner les outils qui vont bien avec les bons codes et également les bons accompagnements. Et pour nous, il est extrêmement important que ces acteurs-là, ces acteurs de l'entreprise, puissent aussi partager et échanger. Et en ce sens que l'on met en place une université de printemps au mois de mars l'année prochaine à Lyon, qui va permettre aux acteurs de l'entreprise d'échanger. Et puis j'ai un deuxième point que j'aimerais ajouter. On parle souvent des difficultés, et j'entends bien, c'est normal, hein, d'évoquer les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap pour trouver un emploi, puisqu'il y a 500 000 chômeurs. Mais il faut dire aussi qu'il y a 1 million de personnes en situation de handicap en emploi. Donc ça veut dire que c'est possible, ça veut dire que l'emploi des personnes handicapées, c'est une réalité quotidienne dans des milliers d'entreprises, et qu'il faut le prendre en compte aussi dans notre regard porté sur le handicap, parce que c'est aussi lever un tabou ou un frein que de dire que c'est possible.
C'est possible, mais c'est aussi, on va quand même rappeler la loi, c'est aussi obligatoire.
C'est possible, hein, et obligatoire.
D'embaucher une partie de personnes handicapées dans son entreprise. On peut rappeler quand même en deux mots quelle est la législation qui veut nous la rappeler. Anne Festa, peut-être?
Oui, rapidement, auparavant, il n'y avait rien. Et comme il n'y avait rien, effectivement, les associations se sont battues. Et donc, je crois que la loi doit avoir un petit peu plus de 30 ans aujourd'hui.
1987.
Voilà. Et donc, où effectivement, il était demandé que 6% des personnes dans une structure soit en situation de handicap. Voilà, les choses se sont faites. Et puis, je ne sais pas si on peut parler de contournement, mais en tout cas, ça n'a pas été satisfaisant complètement, puisque les entreprises ont fait souvent appel à des prestataires extérieurs qui rentraient dans la comptabilisation. Donc, ça voulait dire que ce n'était pas de l'emploi direct. Ce que demande aujourd'hui et ce qui va changer en janvier, c'est sans doute aussi parce que les entreprises sont aujourd'hui arrivées à maturité, c'est-à-dire on va leur demander de participer de façon directe à cette société inclusive par l'emploi, et donc d'offrir des CDD, des CDI en direct à des personnes pour les embaucher, elles, au cœur même de leur structure.
C'est ça là, le grand changement, Véronique Bustrel, de cette loi qui va être applicable en 2020?
Alors, le grand changement, c'est en fait la loi de 87, c'était un premier changement, c'est-à-dire qu'on est passé d'une obligation de moyens à une obligation de résultat, donc les 6%.
Qui ne sont toujours pas atteints.
Les 6% ne sont pas atteints, mais il y a des vrais gros progrès à chaque fois, chaque année, on le note, hein, puisque quand on calcule en nombre de personnes physiques, on voit bien que le nombre de personnes handicapées en emploi augmente, hein. Il a progressé de 30% au cours des 5 dernières années. Ça veut dire qu'il y a vraiment une progression. Ceci dit, ce que l'on constate, c'est surtout une précarisation de l'emploi des personnes handicapées avec des contrats courts et du temps partiel. Alors, qui peut être parfois choisi, mais qui peut être aussi subi. Alors, c'est vrai que ça, c'est un vrai constat. Pour revenir à l'obligation d'emploi et aux grands changements qui sont engagés pour 2020, c'est vrai que une des impulsions majeures, c'est effectivement de mettre en visibilité l'emploi direct, faire en sorte que effectivement les personnes qui sont en emploi dans l'entreprise ou dans la fonction publique soient des personnes qui soient effectivement comptabilisées en tant que telles et qu'on ne n'aille pas forcément regarder tout ce qui se fait en plus. Néanmoins, on a aussi l'intention d'aller regarder les impulsions positives que les entreprises mettent, parce que quand une entreprise recrute un stagiaire, quand elle met en place de l'apprentissage, quand elle met en place des actions de partenariat avec le secteur protégé adapté, quand elle fait en sorte que ses collaborateurs soient formés et mieux formés et qu'on évite la sortie de l'emploi des personnes handicapées, eh bien pour moi, c'est une vraie occasion d'avancer. Et c'est vrai que cette réforme, c'est une réforme très attendue parce qu'elle met en visibilité davantage l'effort de l'entreprise et puis elle oblige aussi un peu à se repositionner sur ces sujets-là.
Voilà, alors je voudrais qu'on prenne en ligne Sam Carman, qui est acteur-réalisateur, parce que c'est un exemple de quelqu'un qui a fait travailler des personnes handicapées et qui a trouvé que finalement... vous êtes en ligne, Sam Carman?
Oui, je suis là.
Que finalement, c'est gagnant pour tout le monde. C'est ça?
Oui, c'est vrai que j'accompagne Mireille Malo, l'association L'Hippocampe et surtout le festival Regard Croisé qui se tient à Saint-Malo depuis une dizaine d'années maintenant et dont la baseline c'est métier et handicap. Et on donne l'occasion à des personnes handicapées de s'exprimer sur leur vie au travail et d'interpeller justement le monde de l'entreprise et le grand public, parce que le monde de l'entreprise c'est quand même des, c'est vous et moi, hein, c'est, on est tous en entreprise à un moment donné, et donc voilà, à travers un acte de création, on croise les regards, et justement ce dont vous parliez au début de l'émission, c'est-à-dire ces préjugés, ces peurs par rapport au handicap, je peux vous assurer que pendant ce festival elles tombent complètement, et on pose Et les employeurs posent un autre regard sur les gens. Et cette année, il y a eu une nouveauté. Je tiens à dire que nous l'avons fait grâce aussi au soutien de la ville de Saint-Malo, comme quoi l'associatif peut être très puissant, mais il doit être aidé par les acteurs locaux. Et donc la mairie de Saint-Malo nous a donné un gros coup de main pour un job dating. Et cette année, en l'espace de 3 semaines, mettre en place cette chose-là.
On peut dire une aventure.
Oui, en une après-midi, il y a eu 120 candidats et en face 29 entreprises. À la fin de cet après-midi-là, il y a eu 13 emplois directs, 13 embauches réelles. Alors CDD, CDI, je n'ai pas le détail, et aussi 15 recrutements qui sont en cours. Voilà. Et donc je voulais dire que à travers ça ouvre à tout le cinéma et ça ouvre à tout. L'expression artistique ouvre à tout et notamment à ce job dating.
Voilà. Alors, et il n'y a pas de secteur où ce ne serait pas possible.
Voilà, absolument. Oui.
Et d'ailleurs,
oui, je vous en prie.
Non, mais j'allais vous dire merci, mais vous voulez peut-être rajouter un petit mot ?
Oui. Je voudrais rajouter un mot, pardon, hein, je dis à tous les gens en situation de handicap d'aller voir sur le site du festival, festivalregardcroisé.com, faites des films, parce que plus il y aura de films, plus nous interpellerons le monde dans l'entreprise et le grand public.
Eh ben, un très grand merci, message est passé ce soir, Sam Carman.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, Anne Festa, c'est le genre d'exemple qu'il faut faire entendre.
Ben, non seulement il faut le faire entendre, mais l'ADAPT, dans le cadre de la semaine qui, je le rappelle, est une semaine européenne, prépare pour le mois de juin un congrès européen avec des partenaires autour de justement l'inclusion par l'art. Et il y aura des films, des acteurs, des expositions, tout ça avec des partenaires européens qui eux aussi ont cette vision. L'art fait partie aussi d'un média très, très intéressant pour interpeller, sensibiliser et aussi proposer des débouchés. On a des exemples de très belles troupes comme la troupe Turbulence ou Timouk qui emploie et qui joue avec des acteurs et des personnes en situation de handicap.
Olivier nous appelle de Nantes. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci beaucoup.
Vous êtes sur l'antenne.
Je voulais témoigner du manque d'éducation qu'on a et de confiance qu'on a et du manque de confiance qu'on donne aux personnes handicapées depuis leur plus jeune âge, qui fait que quand elles arrivent dans le monde du travail, pour beaucoup ne croient pas qu'elles peuvent avoir une place dans ce monde-là, alors que ce sont des personnes qui ont de grandes capacités, qui ont toutes les capacités autant que des valides, seulement avec certaines adaptations.
Vous, c'est votre femme, Olivier, qui est handicapée. C'est à travers son cas que vous dites ce que vous nous dites ce soir.
Exactement. Elle a travaillé pendant une dizaine d'années au sein de mon entreprise. Ça s'est super bien passé. Elle gérait ça du main de maître. Mais malgré tout, pour ce qui est de travailler pour un patron, on va dire lambda, ça on sent que c'est plus compliqué. Il faut croire en soi, comme n'importe quel chercheur de travail. Et on sent qu'il y a des freins. Il y a des freins qui sont ancrés loin.
Merci. Merci Olivier pour cette remarque. Il y a des résistances du côté des employeurs, Anne Festa, mais il y en a aussi donc du côté des personnes handicapées.
Absolument. Ce qu'Olivier vit, ce qu'il vit avec son épouse, on a des témoignages très régulièrement à l'ADAPT et on le voit dans nos établissements. En fait, les personnes en situation de handicap s'autocensurent elles-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles perdent un peu l'estime d'elles-mêmes et c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a au sein de notre association des dispositifs où tout se travaille travail va être fait avec des équipes pluridisciplinaires, des psys, des assistantes sociales, des pères aidants, c'est-à-dire comment aussi ceux qui y sont passés et qui ont vécu ça peuvent aussi accompagner les autres pour leur redonner courage et estime de soi. Et au-delà de ça, des dispositifs existent pour accompagner le temps qu'il faut la personne et au sein de l'entreprise et avec elle, je veux dire, pour aussi l'aider, parce qu'elle ne retrouvera pas d'emploi si elle-même n'est pas convaincue qu'elle est compétente. Et il faut vraiment arriver à un moment donné à changer ce regard, y compris leur propre regard.
Véronique Bustrel de la GFIP.
Oui, moi je partage totalement ce que vient de dire Anne. C'est à la fois un travail qui doit être fait avec l'employeur, parce que l'employeur a aussi une responsabilité pour sécuriser, rassurer, renforcer les compétences des personnes. Et ça, c'est un travail que l'on mène également. C'est un travail avec la personne. Il existe énormément d'outils qui sont mis à disposition. Il faut impérativement que les personnes aient connaissance de ces outils. Alors j'espère que la future plateforme nationale qui va
mettre
pouvoir
en place en 2020,
oui, voilà.
Alors, expliquez-nous ce que ça va être cette
plateforme. Alors c'est une plateforme qui va pouvoir traiter de plusieurs sujets qui traitent de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Et le premier, on va dire la première brique de l'édifice, c'est une brique qui va traiter de la question de l'emploi. Et c'est extrêmement important parce que ça va porter des informations concertées qui vont permettre à tout un chacun d'avoir accès à une information fiable, simple, accessible et qui permettra de partager ces informations. Nous, à la GFIP, on est très activement impliqués dans ces dispositifs et l'idée, c'est de mettre à disposition tout ce qu'on fait sur le territoire, parce que ce que disait Anne, c'est en fait, il y a plein de choses comme ça qui existent sur les territoires. Il y a beaucoup d'actions qui sont développées, financées, encouragées, appuyées, soutenues. Il est impératif que l'on mette l'information à disposition des personnes, que l'on puisse accompagner les personnes vers les bons dispositifs pour effectivement renforcer leur estime d'elles-mêmes et puis les amener à prendre confiance en elles et à aller au-devant de l'emploi et à s'engager plus largement.
Alors la GFIP, si j'ai bien compris, s'occupe des entreprises privées. Véronique Bustrel, je voudrais qu'on prenne en ligne à présent Françoise Descamps-Cronier qui, elle, s'occupe du secteur public parce que, ma foi, c'est très important aussi. Bonsoir Françoise Descamps-Cronier.
Bonsoir.
La fonction publique, qu'elle soit territoriale, hospitalière ou nationale, c'est quelque chose de très important en France. Est-ce qu'il y a des efforts faits de votre côté aussi?
Ah oui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits parce que c'est 5,5 millions de fonctionnaires, que ce soit l'État, la territoriale ou l'hôpital. Des efforts qui sont importants dans sa diversité, puisque le FIP, le Fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap, a vocation à favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, en suivant aussi par rapport à leur évolution professionnelle, à aider dans le maintien dans l'emploi, à contribuer à l'accessibilité numérique et bâtimentaire pour les agents qui auraient des difficultés à se rendre à leur travail aussi, et à soutenir bien sûr la formation professionnelle, parce que la formation professionnelle des personnes en situation de handicap, c'est important parce que c'est un outil pour corriger des inégalités de départ, pour soutenir une reconversion, etc. et tout. Donc effectivement, le fonds pour l'insertion intervient de la même façon que peut intervenir la GFIP aussi, sauf que nos interlocuteurs premiers, nous, sont les employeurs. C'est les employeurs que nous finançons à travers les financements que nous faisons. Mais c'est bien sûr en direction des agents et des personnes qui sont en situation de handicap.
Donc qu'est-ce que vous dites aux personnes en situation de handicap qui nous écoutent? N'hésitez pas à aller frapper à la porte d'une administration, d'une collectivité territoriale.
Et puis d'aller aussi sur notre site où ils auront les informations concernant nos délégués régionaux au handicap, les référents handicap, puisque c'est pas simplement à l'échelon national que ça se passe, mais bien sûr maillé sur tout le territoire. Et sur le site, ils trouveront le catalogue des aides, qui est important, c'est une plateforme. Et puis pour les collectivités qui sont plus importantes, il y a des conventionnements pluriannuels en fonction des projets qu'ils ont, et donc les financements sont très importants. Tout à l'heure, j'entendais effectivement le problème du déplacement des personnes en situation de handicap. C'est une des priorités aussi du Fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap, parce que c'est le moyen d'arriver à son emploi quand on l'a trouvé. Donc l'important, c'est l'accompagnement, et l'accompagnement dans la durée. Parce que si on n'accompagne pas dans la durée, eh bien, on va aller échec aussi. Donc c'est pour ça que il y a cette nécessité-là. Et puis il y a sur le plan du recrutement, quelque chose d'important, c'est l'apprentissage. C'est le premier budget du fonds, l'apprentissage, parce qu'on s'aperçoit que une fois l'apprentissage terminé, eh bien trois jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de limite d'âge hein, pour les personnes en situation de handicap, restent sur l'emploi qu'ils ont occupé pendant l'apprentissage. Et au bout de deux ans, c'est 60% qui ont un emploi. Donc c'est à la fois par rapport à des possibilités de formation initiale, mais c'est aussi dans le cadre de la reconversion qu'on peut avoir recours aussi à l'apprentissage. Et là, le fonds, le FIP, aide énormément, y compris sur les salaires chargés à hauteur de 80% et de multiples autres mesures pour l'accompagnement de l'apprentissage. Voilà, donc c'est effectivement important.
Merci beaucoup, Françoise Descancrenet. On comprend qu'il y a des dispositifs qui existent, des aides qui existent, encore faut-il les connaître. Sur cette question de l'apprentissage, Anne Festa, c'est quelque chose d'important.
C'est quelque chose de très important pour l'ADAPT. Nous pensons à l'ADAPT que l'apprentissage est sans doute une des voies d'excellence pour les jeunes en situation de handicap, les moins jeunes, comme ça vient d'être dit dans le cadre d'une éventuelle reconversion. Mais sur les jeunes apprentis, l'intérêt aussi que cette obligation d'emploi s'ouvre aux petites entreprises, nous on pense que c'est l'endroit peut-être idéal pour que des jeunes puissent être accueillis, accompagnés de façon quasi personnalisée. Et il y a en Bretagne, en région Bretagne, sous la direction de notre directeur régional Franck Gallet, un service qui s'appelle Graphique et qui est aujourd'hui un modèle de ce qui se fait sur ce qu'on appelle nous l'apprentissage accompagné. C'est-à-dire comment ces jeunes vont être accompagnés à la fois sur les cours théoriques qu'ils ont dans le cadre de leur apprentissage théorique, mais aussi en entreprise. Et comment on va aussi accompagner l'entreprise, mais sur du temps, sur la durée. Et c'est une expérimentation qui est observée avec beaucoup d'attention par l'ADAPT, parce que c'est quelque chose qu'on voudrait modéliser. On croit vraiment que cette voie vers les jeunes est quelque chose vraiment, vraiment d'excellent.
Alors, vous parliez de la Bretagne. Eh bien, il se trouve que Bertrand nous appelle de Bretagne. Bonsoir, Bertrand.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Oui, bonsoir. Oui, oui, ma situation, j'écoute là. Moi, j'étais artisan ouvrier dans le bâtiment. Et j'étais découvreur. Et voilà, j'ai eu un handicap. Voilà, j'ai un handicap qui se voit pas. Voilà, j'ai la hache aujourd'hui. Ma situation, donc, je suis hors système depuis 10 ans.
L'allocation adulte handicapé, c'est ça?
Voilà. Et ce qu'il y a, je vous dis, c'est un handicap. Ça se voit pas. Il y a pas une étiquette. Mais il y a l'accompagnement. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de retourner. Moi, je suis couvreur de métier. Et je peux pas vivre avec la hache. J'ai un fils à charge et j'ai rien, moi, pour mon fils.
Bah, il faut de l'argent pour vivre, hein. On est d'accord. Voilà, et quand on est handicapé, c'est la double peine et c'est encore plus compliqué. On est d'accord.
En milieu protégé handicapé, on m'a proposé des choses. Voilà, on m'a proposé des choses. Et mais ça, voilà, je perdais de l'argent en fait. J'allais travailler pour perdre de l'argent. J'avais 1 100 € à la maison. On me proposait des travails protégés. Après, dit protégé, mais c'était pas protégé parce que j'en faisais autant que, voire plus que je faisais dans le bâtiment, vous voyez. Pour un salaire de misère à l'époque, enfin voilà. J'étais suivi par une curatelle et elle m'avait dit d'arrêter parce que je perdais de l'argent, vous voyez.
On voit très bien, Bertrand. On va essayer de vous répondre. Hein. Merci beaucoup. Deux questions dans votre question. La question de ce qu'on a pour vivre, hein, de ce qu'on peut toucher. Et puis la question du handicap invisible. Et cette question-là, elle revient aussi sur franceinter.fr. Anne Festa.
Je vais essayer de répondre rapidement. D'abord à la deuxième, c'est vrai, 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Et donc, c'est des choses sur lesquelles, aujourd'hui, la sensibilisation est extrêmement importante. C'est la thématique de la Semaine européenne pour l'emploi que nous avons organisé avec la GFIP et le FIP. Donc clairement, oui, je veux dire, il faut sensibiliser et petit à petit parler aussi de ce handicap-là. Pour ce qui est des revenus, on ne peut pas aujourd'hui présager de ce qui sera fait. Des discussions sont en cours actuellement avec le ministère auquel l'ADAPT participe dans le cadre des discussions qui sont faites avec les partenaires. C'est qu'il y a ce revenu universel d'activité qui est est en train d'être discuté, ou justement pour éviter ce qui vient d'être décrit par cet auditeur, c'est-à-dire comment travailler sera un avantage, effectivement travailler dans des conditions d'accompagnement et d'adaptabilité, mais comment effectivement le travail paiera plus que l'allocation à l'adulte handicapé.
Véronique Bustrel.
Moi, j'aimerais bien, alors à la fois revenir sur la question précédente, excusez-moi, et sur celle-ci.
Allez-y.
Alors sur la précédente, vous direz également sur la question de l'apprentissage que il y a deux sujets qui sont extrêmement importants à porter à la connaissance de vos auditeurs. C'est d'une part que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a mis en place des référents au sein des CFA, dans les centres de formation d'apprentis. Et demain, ça veut dire que ces centres de formation vont être mieux accompagnés, mieux acculturés et vont pouvoir mieux accompagner les parcours. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, et je pense qu'il faut l'encourager. Nous, à la GFIP, on va l'encourager. On met en place des ressources handicap formation qui vont pouvoir accompagner cet effort. Et cet effort, il portera également sur tous les autres organismes de formation. Et ça fait le lien également avec la question qui est portée par votre auditeur, c'est-à-dire que il y a la question de, finalement, je ne peux plus exercer mon ancien métier, j'étais très attachée à mon métier dans le bâtiment, j'aimerais peut-être rester dans un métier proche et j'ai besoin de me reconvertir. Et donc ce sujet de la formation, de l'accompagnement vers une reconversion et vers un bon choix professionnel, c'est un engagement que l'on a, nous, très à cœur pour les parcours des personnes, et faire en sorte que, bien évidemment, le choix entre une allocation et un travail ne soit pas un choix par défaut. Et il me semble que, y compris si on prend bien en considération les revenus possibles d'une personne, je pense que quand même le travail rapporte plus que l'allocation, tout bien considéré, quand on regarde la capacité à cumuler l'allocation aux adultes handicapés pendant 6 mois à minima avec un travail, et puis ensuite de manière finalement différentielle, vous permettant de combiner le travail et la ressource à côté. Donc c'est vrai qu'il faut être extrêmement bien accompagné, bien informé, pour pouvoir avoir une bonne reconversion dans un endroit où on a plaisir à travailler et à s'exprimer. Et vous le disiez, vous avez envie de travailler, eh bien, il faut aussi pouvoir trouver les bonnes portes. Et moi, je vous conseille fermement d'aller voir aussi du côté de Pôle emploi, du côté de Cap emploi, pour ensuite pouvoir envisager une reconversion, y compris accompagnée. Il existe des dispositifs d'emploi accompagnés. Allez-y, quoi.
Elisabeth est à Nantes. Bonsoir, Elisabeth. On vous écoute. Bienvenue.
Bienvenue. Merci. Je suis à Paris.
Ah bon, mais écoutez. Bienvenue quand même.
Merci beaucoup et merci pour votre amitié. Moi aussi, je souhaitais parler des handicaps invisibles et je souhaitais rebondir, enfin, et surtout être tout à fait d'accord avec le témoignage précédent. Personnellement, quand j'ai pu réussir à travailler, afin de ne pas perdre de l'argent en travaillant, eh ben, j'ai été obligée de travailler au black. Donc bon, voilà, alors que j'avais forcément envie de payer des cotisations, on a envie d'être utile à la société. Et ensuite, moi je suis avec Cap Emploi, toutes les offres d'emploi concernent surtout des personnes à handicap moteur, et ce que je comprends très bien. Et moi, à chaque fois, quand j'ai voulu, puisque je suis reconnue adulte handicapée, quand j'ai voulu postuler à une offre en argumentant auprès de l'entreprise que je leur coûterais moins cher qu'un salarié lambda parce qu'ils allaient recevoir des subventions en employant, à chaque fois, c'est la terreur dans les... Enfin, c'est pas la terreur, c'est plutôt la discrimination. Moi, j'entends plutôt ça comme ça. C'est quel handicap avez-vous, quelle incidence sera sur le travail. Et il faut en fait que je leur donne mon dossier médical, ce qui est hors de question. Et donc, ça pose un problème à chaque fois. C'est est-ce qu'elle a un cancer, est-ce qu'elle est schizophrène, enfin, c'est vraiment les... C'est ce qu'on sous-entend. Et donc, nous sommes dans une impasse, nous sommes obligés de travailler au noir, ou alors, on se prend à chaque fois des gifles dans la figure, parce que votre handicap, je ne suis pas en fauteuil roulant, et je plains tous ceux qui sont en fauteuil roulant, mais en fauteuil roulant, on peut être derrière un ordinateur, ça ne change rien. Mais quand c'est invisible, ça fait très, très, très peur.
Compliqué. Merci mille fois, Elisabeth. Anne Festa va vous répondre.
Voilà, ce qui vient d'être dit montre encore tout le chemin qui reste à faire, et on revient sur ce qu'on a dit lors du début de nos entretiens, c'est-à-dire que cette sensibilisation et l'accompagnement des entreprises est primordial. L'éducation, j'ai envie de dire, de la population, de nous citoyens, est primordiale.
Et puis il y a aussi tous ceux qui ne disent pas qu'ils ont un handicap.
Absolument, et ils ne le disent pas parce que c'est exactement ce qui vient d'être décrit. Ils ont peur peur de discrimination, ils ont peur à un moment donné de se voir juger ou montrer du doigt, et c'est exactement ce qui les amène souvent à l'autocensure, alors même que pourtant, de le dire permet une adaptabilité, va permettre à un moment donné des aménagements d'horaire, en tout cas bref, de mettre en place tout ce dont ils auraient besoin. Mais pour le dire, il faut aussi se sentir accueilli et en sécurité. Donc moi je pense que l'arme, si on peut parler comme ça, c'est parce que c'est encore un combat à mener, cette acculturation, cette appréhension différente de ce regard, il faut vraiment, vraiment travailler énormément sur la sensibilisation et rentrer dans un écosystème où tout le monde a sa place pour, de n'importe quelle façon, de là où on est, petit à petit, faire changer ce regard sur la société. Et ça ne va pas se faire malheureusement en une journée.
Véronique Bustrel, je vous promets de vous donner la parole dans une demi-seconde, mais Christophe nous appelle du Nord. Christophe, je vous prends si vous me promettez de faire court, parce que c'est presque terminé. Bonsoir.
Je vais faire très court. Oui, bonsoir. Alors, ce que je voulais vous dire, c'était que moi, je suis extrêmement sensibilisé à la question du handicap. Je travaille en tant qu'acheteur, donc je lance des appels d'offres pour travailler avec un certain nombre de sociétés sur des prestations type nettoyage, espace vert, etc. Et depuis une quinzaine d'années, je à contacter que ce soit anciennement des CAT ou des ESAT aujourd'hui ou la GFIP, de manière à ce qu'ils puissent soit répondre à mes appels d'offres ou juste rentrer en contact avec eux pour signer son droit de contrat. Et en fait, si vous voulez, je suis confronté, et mes collègues également, je suis désolé de le dire peut-être de manière aussi abrupte, mais au manque de professionnalisme ou d'adaptation de ces organismes à notre fonctionnement, et ils sont en incapacité de répondre à nos appels d'offres ou aux demandes de prix ou de devis qu'on leur fait parvenir.
Alors, on avait dit qu'on faisait court. Christophe, on a compris.
Oui, voilà.
Merci beaucoup. On va demander à Véronique Bustrel de l'AGFIP de vous répondre.
Alors, précision, l'AGFIP ne répond pas à des appels d'offres de ce type-là. En revanche, évidemment, le secteur protégé et adapté, j'entends par là les ESAT, les établissements et services d'aide par le travail et les entreprises adaptées, sont amenés effectivement à répondre à des appels d'offres. Alors, c'est vrai que ça peut être parfois compliqué pour des associations, parfois des structures de petite taille ou des structures commerciales de petite taille, de répondre à des appels d'offres qui sont parfois conséquents. Donc il y a tout un travail d'accompagnement, il y a un certain nombre de réseaux qui existent, je pense à l'UNEA, je pense à Handicat, qui accompagnent les acteurs, les associations se professionnalisent de plus en plus pour répondre à ce sujet et faire en sorte qu'effectivement il y ait la possibilité d'ouvrir de nouvelles capacités d'emploi ou de travail à travers justement ces réponses à appels d'offres. Donc je pense que peut-être que cette situation est particulière, j'en ferai pas vraiment une généralité, mais je pense qu'il faut encourager les entreprises qui font un certain nombre d'efforts pour faire en sorte que leur marché soit ouvert au secteur protégé adapté pour pouvoir développer ces activités, d'autant que je tiens à le dire, on est en train de développer avec l'ensemble des entreprises adaptées en France des contrats de travail de type CDD tremplin qui permettent à des personnes handicapées de faire finalement leur retour ou leur accès à l'emploi dans le marché du travail. Et je crois que du coup, c'est une nouvelle main tendue. Donc n'hésitez pas, lancez des appels d'offres. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui seront en capacité d'y répondre, même si dans votre cas, ça ne se passe pas très bien. Ceci dit, je pense que si vous prenez contact avec l'AGFIP en Grand Est, on pourra peut-être vous apporter une réponse.
Merci beaucoup Véronique Bustrel. C'est vous, Anne Festa, qui allez avoir le mot de la fin en guise de conclusion à cette émission. Moi, j'ai l'impression que le travail, il est vaste, il va dans des tas de directions. La priorité des priorités, ce serait quoi?
La priorité des priorités, si je devais dire quelque chose, c'est de continuer ensemble pour aller vers la société la plus inclusive, la plus accueillante et en même temps de rien lâcher.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école aussi a un rôle fondamental.
Et nous en avons parlé un petit peu hors antenne avant d'entrer dans ce studio. Je pense que ce qui permettra demain, y compris d'améliorer le travail et l'inclusion par le travail, c'est d'améliorer le regard sur le handicap en passant par l'école, et l'école inclusive est une des voies qui s'ouvre aujourd'hui.
Merci beaucoup Anne Festa de l'ADAP, merci beaucoup Véronique Bustrel de l'AGFIP, merci à tous ceux qui ont appelé et à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce téléphone sonne. Merci à nos standardistes qui ont réceptionné vos appels, à Amel Meyer qui a réceptionné vos mails, à la technique ce soir Ronan Mahé, Henri Bérec, Alix Barwa. Après le flash de 20h, Julia Foyce, pas son genre. On parle de quoi ce soir Julia?
Et bien en fait on a souvent l'impression que les violences faites aux femmes sont comme une fatalité face à laquelle on ne peut rien faire, mais en fait si chacun à son niveau, on peut faire quelque chose à commencer par aider les victimes elles-mêmes.
Voilà, il y a des choses à faire, mais c'est comme le sujet dont on vient de parler, y compris. Exactement. On commence par l'école.